Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Ça ne vous aura pas échappé, depuis 15 jours se déroule le tournoi de Roland-Garros, finale dame aujourd'hui, homme demain, et sortie surtout mercredi prochain du film 5e set porté par Alex Lutz. C'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de vous raconter aujourd'hui la place du tennis au cinéma. Il est présent sur grand écran depuis finalement assez longtemps, vous verrez, et les films autour de l'univers du tennis se multiplient ces dernières années. On vous expliquera pourquoi et on parlera aussi de tout ça avec le réalisateur de 5e set, Quentin Reynaud. Comment on filme le tennis au cinéma? Tiens, on lui posera la question. 14h30, les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Benjamin Laverne qui nous racontera ses plus grands souvenirs de cinéma. Alors par exemple, quel est son souvenir le plus dingue?
Les Blues Brothers 2000. La salle de cinéma était vide, on n'était que des potes et on est parti en baston de Bombec, de dragibus, de pop-corn aux quatre coins de la salle. Moitié cache-cache, moitié on se mettait sous les sièges. Enfin, c'était une espèce de chaos avec le film qui continuait. Et en même temps, les Blues Brothers, c'est bien barge. Donc, c'est comme si c'était une petite licence, on avait le droit, quoi.
Et pour découvrir la suite du questionnaire de Proust version cinéma de Benjamin Laverne, rendez-vous dans une demi-heure. Et puis juste après, eh bien, j'accueillerai mes collègues critiques, comme chaque samedi, pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier. Au programme aujourd'hui, Nomadland, le film multi-oscarisé de Chloé Zhao. Nous parlerons aussi de la comédie française de la semaine, ça s'appelle Le Discours. De 200 mètres, belle surprise, je trouve, et nous dirons quelques mots de Loki, la nouvelle série dérivée de l'univers Marvel qui vient d'arriver sur Disney+. Voilà pour le programme de votre Clap, qui démarre maintenant avec notre récit « Quand le tennis fait le break sur grand écran ».
Europe 1. Le récit.
On date l'invention du tennis moderne à 1874. C'est un certain Walter Clopton, Major Walter Clopton, qui en a inventé et codifié les règles. Alors à l'origine, le tennis est un sport de gentleman et un marqueur social, notamment de l'aristocratie anglaise. Rappelez-vous, dans Match Point de Woody Allen, Jonathan Rhys-Meyers arrive à faire son trou dans un milieu social qui n'est pas le sien, en étant justement prof de tennis.
On va partir pour 3 semaines. Quand je reviens, je suis dit.
Quand tu reviens ? Et moi, je fais quoi en attendant? Tu vas arrêter un peu de jouer avec moi?
Je ne joue absolument pas avec toi. Ça va avoir un énorme impact sur tout le monde.
Comment peux-tu aller en vacances avec ta femme alors que tu sais que tu la quitteras la minute où tu reviendras? Tu sais ce que j'éprouve, hein? Je suis jalouse.
Hé, ne parle pas si fort.
Match Point qui file la métaphore tennistique pour raconter finalement le cours d'une vie. Le film sera l'un des succès de l'année 2005 avec près de 2 millions d'entrées rien qu'en France. Mais si je vous dis tennis au cinéma, vous pensez aussi sans doute à Un éléphant, ça trompe énormément d'Yves Robert. L'histoire de quadragénaires confrontés à des problèmes dans leur vie privée. Au casting, Guy Bedos, Jean Rochefort, Victor Lanoux, Claude Brasseur et une scène devenue culte, celle dans laquelle Marthe Villalonga débarque avec sa valise sur le cours de tennis en pleine partie pour annoncer et qu'elle quitte le domicile conjugal.
Simon ! Vous dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, jouez. Simon ! Ici !
Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu as sorti les fourrures ?
Je m'en vais ! Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit ? Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine ! Je te souffre pas !
Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non ?
Où est-ce que je peux te le raconter, alors ?
Arrête ! Arrête !
Un tournage qui n'a pas été de tout repos pour Victor Lanoux. Il en parlait au micro d'Europe 1.
J'ai appris à jouer au tennis pour tourner Un éléphant, ça trompe énormément.
T'avais jamais mis le pied sur un court ?
Jamais tenu une raquette.
Il paraît que Jean Rochefort s'en souvient aussi ?
C'est pas Jean Rochefort qui s'en souvient, c'est moi. C'est lui qui m'a cassé 4 dents et qui m'a...
Ah, c'est toi qui as pris la balle en pleine poire ?
Non, la raquette.
La raquette, c'est ouais. Encore
plus. La raquette de Rochefort, oui. Tiens, un bon titre.
Et quand j'ai enlevé mes deux mains de mon visage et que j'avais la lèvre complètement en sang, ça pissait de partout, il m'a regardé, il m'a dit « Tu serais plutôt mieux comme ça.
» C'est d'ailleurs l'une des questions qui se posent. Comment jouer au tennis devant la caméra? Quand on n'est pas joueur de tennis, ça ne s'improvise pas. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Mais revenons à Un éléphant, ça trompe énormément. 3 millions de spectateurs se ruent dans les salles. C'est l'un des gros succès de l'année 1976. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le tennis en France, comme en Angleterre, reste un sport de privilégiés. Et Roland-Garros, une antre difficile à pénétrer car très secrète. Et pourtant, un réalisateur va réussir à rentrer dans les coulisses. C'est William Klein avec son documentaire The French. En 1981, pour la première fois dans l'histoire du tournoi, un réalisateur est autorisé à filmer les joueurs dans leur intimité, hors du terrain. Il y suit les plus grands de l'époque, Borg, McEnroe, Lendl, ils y sont tous. William Klein filme des instants historiques, jamais captés par une caméra. Et dans ce documentaire, au milieu de ces géants, il y a un petit Frenchie, un certain Yannick Noah, qui gagnera Roland-Garros 2 ans plus tard, en 1983.
Puis là, je me suis couché, il était vachement tard. Quand les autres sont venus dire, ouais, Noah était au palace hier.
Ah oui, ça, on est venu.
Bon, j'étais pas à 2h30, mais je suis resté tard.
Pourquoi Yannick est au palace?
Je suis resté jusqu'à 1h30, tu vois, parce que je savais très bien, et puis je me suis endormi vachement tard. Patrice m'a réveillé à 7h, je me suis pas réveillé, j'ai dormi jusqu'à 8h, parce que j'avais pas eu le temps de... On s'entraînait. J'étais 8 heures pour jouer vers midi, c'est quand même juste. C'est juste.
On y voit aussi les éternels ennemis, Borg, McEnroe, qui auront même droit, tiens, à leur propre fiction sortie il y a 4 ans, avec notamment Shia LaBeouf dans le rôle de McEnroe, l'impulsif, et Sverrir Gudnason dans le rôle de l'imperturbable Borg.
John, félicitations pour votre victoire d'aujourd'hui. Cependant, qu'avez-vous à dire sur votre comportement?
Est-ce qu'on peut parler de mon tennis?
Êtes-vous inquiet de la réputation que vous vous êtes faite en Grande-Bretagne?
Peut-on parler tennis? Avez-vous des questions sur
mais
mon tennis?
S'il vous plaît d'être le vilain petit canard, vous pensez que votre attitude vous aide?
Serez-vous capable de vous contenir?
Maintenant, ça suffit, ferme ta gueule. Vous ignorez totalement ce qu'il faut donner pour jouer au tennis. Moi, quand je suis sur le court, je donne tout ce que j'ai. J'arrive et quand je repars, j'ai laissé mes tripes sur ce putain de court. Et ça, vous pouvez pas le comprendre, le cul sur vos chaises.
Borg McEnroe, un duo mythique qui a beaucoup inspiré le cinéma. Wes Anderson y faisait d'ailleurs référence dans son film La famille Tenenbaum. Lors de l'US Open, Richie, l'un des fils de la famille, craque. Un craquage mémorable qui rappelle les coups de sang de McEnroe.
Oh, quelle folle! Ça fait 72 fautes pour Richie Tenenbaum. Oh là là, j'ai jamais vu une chose pareille, jamais. Eh bien, moi non plus, Tex. Curieuse journée, vraiment un sportif de si haut niveau, vraiment je comprends pas.
Mais le tennis, ce n'est pas qu'une histoire d'hommes. En Angleterre, Wimbledon s'ouvre d'ailleurs aux femmes dès 1884. En 1919, c'est la Française Suzanne Lenglen qui remporte le tournoi à seulement 20 ans. Dès lors, elle devient une légende. 241 tournois gagnés au cours de sa carrière. Elle est aussi une véritable icône féministe. L'un des grands cours de Roland-Garros porte aujourd'hui son nom. Et Suzanne Lenglen inspire toujours de nombreuses joueuses. Marie Pierce, Serena Williams, Amélie Mauresmo. Pourtant, aujourd'hui encore, le tennis féminin reste moins coté, moins prestigieux que le tennis masculin. Les joueuses sont donc souvent moins bien payées que les joueurs. Le cinéma, encore lui, s'est emparé de cette question, notamment dans Battle of the Sex, qui raconte le périple de la joueuse numéro 1 mondiale, Billie Jean King.
Ce communiqué de presse.
Ah oui.
Il est écrit ici que vous offrez 12 000 dollars aux hommes et que vous offrez 1 500 dollars aux femmes, exact?
Ce sont les conditions, en effet.
Le prix masculin doit être élevé pour attirer les meilleurs joueurs.
D'après mes calculs, vous offrez 8 fois plus aux hommes qu'aux femmes. On fait 8 fois moins de spectateurs.
Je ne connais pas les pourcentages, mais...
On a vendu le même nombre de billets pour la finale dames que pour la finale messieurs.
Même recette, même prime. Logique, il me semble.
Oh, soyons raisonnables, voyons, nous n'avons pas les moyens de faire une chose pareille.
Comment vous justifiez ça?
Billie Jean King qui a refusé de ne recevoir que 10% de la rémunération des joueurs hommes. Elle est aussi et surtout célèbre pour avoir battu un homme ex-numéro 1 mondial, c'était en 1973. Ce joueur, c'est Bobby Riggs. Alors qu'il affirmait que les femmes ne sont bonnes qu'à ramasser les balles, Billie Jean King accepte un match contre lui. Elle le défie et remporte ce duel en 3-7. C'est Emma Stone qui tient le rôle titre dans le film. Alors en France, plusieurs réalisateurs se sont aussi intéressés à l'univers du tennis, notamment Stéphane de Moustier, qui dans Terre battue, porté par Olivier Gourmet, raconte l'histoire de ce père qui a drogué un concurrent de son fils pour l'endormir juste avant un match, sauf que l'enfant est mort quelques heures plus tard. Le film s'inspire d'un fait divers réel.
C'est pas mon père qui a mis les somnifères, c'est moi.
C'est toi qui as mis les somnifères dans la gourde?
Je suis allé au vestiaire à la fin du premier set pour remplir les bouteilles. J'ai mis 2 comprimés. Je les ai écrasés avec mes chaussures.
C'est ton père qui t'a demandé de le faire?
Non.
Qu'est-ce que tu voulais?
Je voulais jouer au tennis.
Et puis mercredi prochain sort un autre film sur le tennis. Son titre 5e set, l'histoire d'un ancien espoir qui n'a jamais fait carrière mais qui, à 38 ans, est persuadé qu'il n'est pas fini, qu'il peut continuer à jouer au tennis et gagner des tournois. C'est Alex Lutz qui joue ce rôle. Dans un instant, je reçois le réalisateur du film, Quentin Reynaud. On verra notamment avec lui comment filmer Alex Lutz comme joueur de tennis alors qu'il n'a jamais joué au tennis. Mais d'abord, on parlait d'Yannick Noah. Et bien, on va en écouter un titre, Les Lyonnes. Vous êtes à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
Porte l'eau, porte la vie. Du ciel à ton seau, le jour et la nuit. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien. Surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort. Tu le sais bien, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Et tu sais, les lions sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lions sont vraiment, vraiment des reines. Porte la vie, tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lions sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne et plus jamais ne le reprenne. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Tu sais, les lions sont vraiment, vraiment des reines. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elle ramène. Dans leur seau bien plein, fatiguée mais toujours sereine. De la terre et des hommes, elles sont les gardiennes. Et tu sais, les lions sont vraiment.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et qui aujourd'hui, notamment en raison de Roland Garros, s'intéresse donc au tennis sur grand écran. Mercredi prochain, je vous le disais, sort ce film, 5e set, porté notamment par Alex Lutz et réalisé par Quentin Reynaud qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un film avec le tennis en toile de fond, mais qui parle aussi finalement de tous ces sportifs de haut niveau qui sont juste en dessous des stars, dans l'ombre. Déjà, pourquoi ce film? Je crois que vous, vous êtes tennisman à l'origine, en tout cas vous pratiquez le tennis.
Exactement, moi je pratique le tennis depuis tout petit, et c'est vrai que j'avais donc une bonne connaissance du milieu tennistique, et c'est vrai que du coup j'ai toujours pensé que c'était un terreau très fertile pour réaliser de belles fictions, de beaux drames de cinéma, qui jusque là en tout cas au niveau tennistique n'était plus pour moi parfois dans des films un fond, une toile de fond, comme dans Match Point où c'est, voilà, c'est pas vraiment le cœur de l'histoire. Moi, c'était vraiment me rapprocher le plus possible de la psychologie et de la difficulté de devenir un grand joueur de tennis.
La difficulté aussi dans la vie privée, parce que ce joueur de tennis, il a 38 ans, il a eu quelques espoirs étant jeune, il a jamais vraiment réussi à percer. Et on voit comment finalement ça pourrit sa vie au quotidien, sa relation avec sa compagne. C'est-à-dire que c'est vraiment une vie, on est loin de la vie dans les étoiles telle qu'on peut l'imaginer, nous, en tant que spectateurs et en tant que public.
Totalement. C'est-à-dire que on imagine, quand on voit ces joueurs du top 50 ou du top 10, que tout va bien. Ils ont leur famille avec eux. Voilà, Djokovic, je prends un exemple, c'est une sorte de soleil autour duquel toute sa famille rayonne. Ça fonctionne quand on est un grand joueur et qu'on gagne beaucoup d'argent. Thomas Edison, lui, qui est 245e joueur mondial, le problème, c'est que il est en fin de carrière, il a 37 ans, et pour autant, quand on veut devenir et rester un joueur de haut niveau, on phagocyte aussi tout l'univers familial. Ça met vraiment en lumière les difficultés qu'une compagne, qu'un compagnon peut avoir à faire des sacrifices pour que le conjoint puisse vivre sa passion.
D'ailleurs, vous montrez bien dans le film ce qu'on appelle les qualifications. C'est-à-dire que Tom Edison, pour participer à Roland-Garros, il doit passer par les qualifs, donc avant même le début du tournoi, gagner d'autres matchs. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas ou peu sur grand écran.
Ben oui, alors que c'est là où en réalité les enjeux sont bien souvent les plus grands, les enjeux financiers. C'est-à-dire qu'un premier tour à Roland, c'est grosso modo, je crois, entre 45 et 50 000 euros. Et un premier tour de qualif, c'est 6 ou 7 000 euros. Mmh. S'ils arrivent à se dépêtrer des qualifications, les joueurs, ils ont quasiment une année tranquille. Mmh. Et c'est dans ces matchs-là de qualification, sur les petits terrains, qu'il y a les vrais passionnés. Et c'est là où il y a les gros matchs, c'est là où les mecs jouent leur vie à cet endroit. Parce que là, ils jouent pas pour le titre, ils jouent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, envoyer de l'argent à leur famille. Et il y a quelque chose qui se passe dans ces qualifications. Quand on y va, il y a une autre atmosphère. Ce sont les vrais puristes, les vrais passionnés du tennis. C'est assez fascinant.
Et alors, quant à Reynaud, vous avez eu le droit, et je crois que c'est une première, de tourner à Roland-Garros, une partie du film.
Exactement. C'est une première, moi, pour les fictions. Non, ça, c'était fantastique. On est resté 5 semaines à Roland-Garros, plus que les joueurs chaque année. On a réussi à discuter avec la Fédération française de tennis. Et moi, c'était très clair dans l'idée que je n'allais pas faire de publicité ni pour le tennis ni pour Roland-Garros. Mais j'avais j'ai un tel amour pour ce sport que en fait c'était un peu écrit dans le scénario et la façon dont je voulais le traiter que j'allais le respecter et essayer de le montrer le plus possible tel qu'il est. On était très fiers. C'est un personnage très puissant, Roland Garros, dans le tennis français. Tout joueur, quand il pratique ce sport et quel que soit son niveau, son rêve ultime, c'est de jouer à Roland Garros. Et c'est vrai que ça a été une expérience inoubliable de pouvoir comme ça mélanger mes deux passions, cinéma donc et tennis.
Et alors sur les 1h40 que dure ce cinquième set, ce film, il y a 25 minutes qui sont consacrées au match final, parce qu'il a une vraie importance dans l'histoire, et ça les spectateurs le découvriront. Mais comment on filme du tennis? Ça a l'air bête comme question, mais c'est quand même hyper compliqué, c'est-à-dire qu'Alex Lutz n'est pas forcément un grand professionnel du tennis. Comment on filme et comment on arrive à mettre ça en image?
Alors il y a deux aspects. Il y a déjà l'aspect réalisation, de manière générale. C'est-à-dire que le tennis est considéré, après les sports de combat, comme le sport le plus violent. Sauf que on n'a pas le droit de taper son adversaire. Voilà, on peut pas lui mettre des coups de poing. Donc ça génère en plus une certaine frustration. Donc ça, à la fois on est contre quelqu'un, mais on est surtout contre soi-même. Et de fait, cette distance qu'il y a entre les deux joueurs de tennis, c'est hyper compliqué à mettre en scène, parce que dans un match de boxe, tous les films de boxe sont hyper photogéniques. Pourquoi? Parce que dans un seul cadre, on a les deux types qui se tapent sur la figure, qui la sueur se mélange, il y a du sang partout, et tout est là. Dans un mètre carré, on a tout. Le tennis, on est à 15 mètres l'un de l'autre, et on se met des grosses patates, mais voilà, comment le filmer? Donc l'idée, moi, c'était déjà de rapprocher mes joueurs en étant le plus proche possible d'eux. Proche de leur sueur, de leur souffle, et j'essaye de les rapprocher donc en faisant des plans de coupe et en montrant que chaque frappe est quasiment une sorte de coup de poing. En tout cas, en termes d'intensité, c'est la même chose. Donc voilà, ça c'était mon principe général de mise en scène, c'est de ne surtout pas faire de mise en scène télé. Et effectivement, Alex Lutz, ne sachant pas jouer au tennis, là c'est un petit peu la magie du cinéma, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, on prend effectivement des plans rapprochés. On a des doublures, il était doublé par Frédéric Petitjean, qui était 400e joueur mondial. Et donc voilà, dès qu'on s'éloigne un petit peu et qu'on a du tennis à proprement parler, c'est la doublure qui prend la main. Voilà, et Alex par contre a énormément travaillé juste pour être ce joueur de tennis entre les points. Quand il positionne ses bouteilles, quand il attrape des balles, quand il se nettoie le visage, quand il marche sur la terre battue. Voilà, donc il a fait 4 mois de préparation très intense, physique, et tennistique, orienté sur une sorte de chorégraphie et des habitudes, voilà, de manière à ce qu'il soit ce joueur entre les points de tennis.
Il y a aussi un personnage qui est important dans le film, on n'a plus le temps d'en parler, mais c'est celui de la maman qui est jouée par Christine Scott Thomas. Nos auditeurs iront découvrir ça en salle, ça s'appelle donc 5e set, ça sort mercredi prochain. Merci beaucoup Quentin Reynaud d'avoir été avec nous dans Clap aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Et nous, vous restez à l'écoute, on se retrouve dans un tout petit instant, on va ouvrir notre séquence Les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Benjamin Lavergne qui a accepté de nous révéler tous ses plus grands souvenirs de cinéma. À tout de suite.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. J'accueille maintenant dans ce studio Benjamin Lavergne. Bonjour.
Bonjour.
Pour le jeu, j'allais dire, pour le questionnaire, les films de ma vie. Alors que le film Le Discours est sorti il y a quelques jours, adapté du formidable roman de Fab Caro, je vais faire le pitch qui est assez simple. Votre personnage, Adrien, est coincé à un dîner de famille. Ennuyeux, forcément. Lui n'attend qu'une chose, un SMS de Sonia. Un SMS dans lequel elle pourrait peut-être lui annoncer que la fameuse pause dans leur relation est terminée. Sauf que ce SMS n'arrive pas et que pour couronner le tout, eh bien son beau-frère, qui est joué par Kian Kojandi, lui demande de faire un discours, d'où le titre, à leur mariage, pour rendre hommage à sa sœur. Comme ça, c'est un pitch étrange, et pourtant, on va tenir 1h30 en se marrant bien, c'est le moins qu'on puisse dire.
J'espère. Oui, le pitch est mince, mais je vous garantis qu'il est efficace, parce que quand même, j'imagine et j'espère qu'on s'attache à ce personnage qui est un trentenaire en crise, qui va pas très bien, mais en général, c'est là que la comédie est la plus réussie, c'est quand il y a de la détresse.
Et qui va se refaire ce film du discours un paquet de fois dans la tête.
Son pire cauchemar, mais je crois que c'est même le pire cauchemar de tous les Français. Je crois que c'est de prendre la parole en public. Et voilà, il se retrouve dans une spirale de névrose, de fantasme même. Donc le film est assez inventif là-dessus. Il propose de montrer ce que serait le discours idéal, le discours catastrophique. Voilà, c'est un film à la fois aussi très nostalgique, mais qui a une narration en tout cas vraiment originale, je trouve. C'est ça qui m'a séduit quand j'ai lu le scénario.
Je vais pas faire long, hein, vous inquiétez pas.
Il y a environ un mois, Sonia m'a dit...
J'ai besoin d'une pause.
Pourquoi ?
C'est censé durer combien de temps, une pause ? Je me suis promis de ne pas contacter Sonia. Et puis aujourd'hui, j'ai craqué. Ça fait 1h11 qu'elle a lu mon message et qu'elle a toujours pas répondu.
Est-ce que vous êtes prêt pour notre questionnaire?
Oui, je suis prêt.
Votre premier souvenir de cinéma, Benjamin Lavergne?
J'étais traumatisé par Cro-Blanc. C'est Disney, c'était Ethan Hawke.
Ouais.
Ethan Hawke, comme les Ethan Hawke.
Dégage-toi! Dégage-toi du traîneau, Jack! Jack, reste où tu es! Ne va pas sur la glace! N'avance pas!
Et à un moment donné, ils tombent dans la glace. Et ils ont tout le village là, qui est une espèce de grande traversée du Grand Nord. Et il y a un lac gelé. Et tout le village tombe à travers le lac. Il y a un cercueil qui s'ouvre, avec un mort qui sort du cercueil, puisqu'ils portent leur mort sur leur traîneau. Et notre héros n'arrive pas à remonter à la surface parce qu'il y a un visage comme ça, blanc, qui le bloque. Ça m'a traumatisé.
Oh, je t'avais pourtant prévenu. C'est bon. Aide-moi. J'ai bien fait.
Je suis rentré chez moi, j'avais une babysitter. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps jusqu'à l'arrivée de mes parents à 2h du mat. Voilà, je pense que c'est un de mes premiers souvenirs un peu traumatiques.
Votre meilleur souvenir à l'inverse en salle?
Je crois que les plus grands souvenirs que j'ai eu en salle, ça reste adolescent et des grandes aventures populaires. Titanic, ça m'a quand même choqué en fait. Je l'ai vu deux fois au cinéma. Ils sont rares les films que j'ai vus deux fois au cinéma.
Ado, vous y êtes allé deux fois?
Je suis allé deux fois ado. J'ai été voir deux fois Amélie Poulain au cinéma, deux fois The Mask.
Blondie! Bonjour la classe, maintenant on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard.
Et pour moi c'est trois grands films et ça fait partie de mes trois meilleurs souvenirs de cinéma, même si votre question c'était le. J'ai pas pu m'empêcher de faire un petit trio.
Vous m'avez prévenu avant d'entrer dans le studio que
c'était une galère.
C'était compliqué
pour
moi.
Une vraie galère des classements.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Alors je crois que c'est les Blues Brothers 2000.
T'es même plus les loups de blues du début. Les loups de blues du début disaient qu'il n'y a aucune pharmacopée au monde qui peut te filer autant d'adrénaline que les blues quand ils se défoncent et qui mettent le feu à la salle et que les gens sont en transe et qui s'éclatent comme des malades.
Merci Buster.
Où on est parti dans une baston, la salle de cinéma était vide, on était que des potes et on est parti en baston de bonbec, de dragibus, de popcorn aux quatre coins de la salle. On se faisait moitié cache-cache, moitié on se mettait sous les sièges, on se bombardait. Enfin, c'était une espèce de chaos, de carnage en pleine séance. Voilà.
Avec le film qui défilait derrière.
Avec le film qui continuait. Et en même temps, les Blues Brothers, c'est un peu... c'est bien barge, donc ça, c'est comme si c'était une petite licence, on avait le droit. Quoi.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre, Benjamin Lavergne?
Alors moi, j'adorerais vivre dans... quand j'ai regardé Retour vers le futur.
Ouais.
Les balles de promo. Tout ça, les années 60, le rock.
On y va. On va vous jouer un bon vieux rock, bien rétro. Enfin, c'est-à-dire, là d'où je viens, c'est un vieux rock bien rétro.
Vraiment, toute cette époque-là, de faire du skate, bon, le skate vole hein, derrière un pick-up, donc c'est pas vraiment les années 60. Mais si en plus, il peut y avoir un peu de futur dans les années 60, de se coiffer au peigne en arrière, de mettre un perfecto, de bouffer des glaces à l'italienne dans des restos, comme on appelle ça, les restos vraiment.
Les diners.
Ouais, les diners, quoi.
On y est là.
Je crois que ça me rendrait très heureux, ouais.
Ah bah, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
La plus belle scène de cinéma, selon vous?
La plus belle scène de cinéma?
C'est dur. Hein.
Ouais, ça, c'est une galère. J'ai vu... j'ai vu Série Noire, là, de Corneau, que j'avais jamais vue la semaine dernière avec Patrick Devers. La scène où on l'accule, on lui dit, mais Myriam Boyer lui dit, tu mens, dis-moi la vérité. Et il se met à hurler parce qu'il est pris à la gorge de son mensonge et... Mais tu arrêtes! Et il se met à faire un truc complètement dingue. C'est une des plus belles scènes que j'ai vues récemment.
Tu as bu ici toute la journée dimanche, avec quelqu'un d'autre. Puis tu es sorti et tu es rentré avec l'argent. Qu'est-ce que tu as fait?
Mais rien, Jeanne. Rien qu'une petite belote avec les copains, c'est tout. Après, je les ai raccompagnés chez eux, bon sang.
Qu'est-ce que tu as à voir avec cette horrible histoire?
Mais quelle histoire?
Mais tu le sais très bien, on parle de ça partout dans tous les magasins. Le meurtre de la vieille dame.
Tais-toi, Jeanne! Tu vois pas que j'essaie de te sauver, toi aussi?
Qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir?
Foutez-moi la paix! Notre Dieu!
Et pour finir, Benjamin Lavergne, la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Je sais pas si c'est celle que j'aimerais mettre.
Ah oui.
Là, j'ai rêvé mettre Dedicated to the One I Love de The Mamas and the Papas comme chanson. Je me suis dit ça c'est une chanson. Si je réalise un film, je mettrai ça. C'était d'ailleurs dans la bande-annonce d'un film du mec qui a fait Parasite, Bong Joon-ho, sur cet énorme cochon là. Vous voyez ou pas
Okja.
Okja. Et dans la bande-annonce d'Okja, il y a cette chanson qui a une dimension épique et émotionnelle fantastique.
Merci beaucoup Benjamin Laverne.
Je vous en prie.
D'avoir joué le jeu. Et donc on va vous découvrir dans le discours signé Laurent Tirard. Tiens d'ailleurs, dans un tout petit instant, j'accueille mes collègues critiques et on va en débattre avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du discours? Je crois, rassurez-vous, qu'ils ont aimé. On parlera aussi de Nomadland signé Chloé Zhao de 200 mètres. Très belle surprise de la semaine. Et puis de Loki, nouvelle série Marvel qui débarque sur Disney+. A tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on ouvre maintenant notre page critique dans Clap, votre émission cinéma aujourd'hui pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier. Thierry Chaise de Première et Fabrice Leclerc de Paris Match. Messieurs, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
On va parler de Nomadland, triplement oscarisé du discours, la comédie de la semaine, le discours adapté du roman de Fab Caro, de 200 mètres, belle surprise je trouve, on verra si vous partagez cet avis, et de Loki, la nouvelle série Marvel qui débarque sur Disney+. Mais à tout seigneur, tout honneur, Nomadland, donc signé Chloé Zhao, 3 Oscars lors de la dernière cérémonie, notamment celui de meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao. C'est seulement la deuxième femme dans l'histoire à être sacrée.
Ma mère dit que vous êtes sans abri, c'est vrai?
Non, je suis pas sans abri, disons plutôt sans maison. T'en fais pas, tout va bien.
Comment tu l'as appelé ton fan?
L'avant-garde.
L'avant-garde, c'est puissant.
C'est tout lui.
J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route. Et on se retrouve. Les au revoir ne sont pas des adieux.
Voilà, vous êtes dans l'ambiance du film. On y suit Frances McDormand qui a tout perdu. Emploi, mari, maison. Elle part donc sur les routes du Nevada à bord de son van aménagé. Elle enchaîne les petits boulots, notamment des jobs journaliers chez Amazon, recrutée au gré des commandes. Et puis surtout, elle part à la rencontre de communautés, des laissés pour compte de l'American Way of Life, qu'elle va se retrouver dans des grandes étendues. Alors tous vivent à bord de ces petites camionnettes, ils se retrouvent pour partager quelques moments. C'est vraiment, je trouve, un grand film, aussi bien sur le plan de la photo que de ce que ça raconte de notre époque, parce que ça se passe aux États-Unis, mais ça pourrait se passer dans pas mal de pays. Est-ce que vous avez été convaincu?
C'est super intense, très très beau.
Incroyable.
C'était vraiment poignant comme film.
Comme d'habitude, Chloé Zhao ne nous déçoit absolument pas. J'avais vu The Rider, c'est vrai, c'est authentique, c'est fort.
Et la façon dont Chloé Zhao filme, on est vraiment complètement dedans, c'est impressionnant.
Grande performance de Frances.
Frances McDormand, c'est une actrice extraordinaire, mais les gens qui ont été castés, qui ne sont pas des acteurs pros, ils ont vraiment des gueules, des voix, des personnages qui sont très, très marquants aussi.
Le fait qu'elle l'utilise, que ce soit entre le documentaire et le film, ça aussi, ça apporte quelque chose de vraiment, c'est sa touche personnelle et elle mérite le prix qu'elle a reçu.
Bon, ben voilà, un public unanime. Thierry Chaise, Nomadland.
Je suis d'accord, et avec le public et avec vous. c'est toujours intéressant de voir une réalisatrice qui s'est fait connaître par 2 films que le grand public n'a pas vu, mais qui ne travaillait qu'avec des comédiens amateurs, je dirais, qui étaient les chansons que mes frères m'ont apprises, et Zoraya se confrontait à un visage connu. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Et ce qui est bien, c'est que ça marche totalement. Et ce que j'aime chez Chloé Zhao, c'est qu'elle ne perd jamais de vue qu'elle fait de la fiction et du cinéma. Alors oui, c'est très documenté, mais après, on fait quand même des belles images, on fait des choses, on pense au public et pas juste à délivrer un discours qui finalement serait un discours qui ouvrirait des portes qui s'est totalement ouvertes déjà. Et vraiment, c'est une cinéaste que je trouve extrêmement intéressante, Alors, c'est Frances McDormand qui lui a dit « Viens adapter ce livre-là » et la rencontre se fait. Mais vraiment, il y a peu de cinéastes qui sont capables, comme ça, d'un seul coup, de gravir une marche aussi importante sans se renier, tout en sachant accrocher de plus en plus de gens. Moi, je suis épaté par Chloé Zhao.
Fabrice Leclerc.
Alors moi, je suis encore plus épaté par Chloé Zhao, par le travail qu'elle fait, par le film évidemment, parce que c'est un film qui parle à la fois de la perte des repères d'une société qui est en train de se déliter, mais aussi d'un espoir, d'un souffle et de la liberté
parce et de grands espaces sont libres,
et de liberté et d'une liberté retrouvée. Mmh. Mais après, voilà, je suis tellement d'accord avec Thierry. Chloé Zhao, c'est à la fois une documentariste extrêmement proche de ses personnages qui sont tous étonnants dans le film, surtout ceux qui sont pas connus. Et puis, c'est du David Lean, c'est du frère Cohen, il y a même du Christopher Nolan, intello, féminin, pas américain, voilà, parce qu'elle est sino-américaine, donc elle amène sa culture aussi. Mon Dieu, quel cinéma! Je n'ai rien d'autre chose à dire que allez-y, vous y retournerez en plus.
Et mon Dieu, effectivement, n'hésitez pas à vous ruer dans les salles pour découvrir Nomadland, signé donc de Chloé Zhao. Deuxième film, on va changer complètement d'ambiance. C'est la comédie française de la semaine. D'ailleurs, c'est la comédie de l'année, selon le distributeur. C'est ce qu'il a mis sur les affiches. Ça s'appelle Le Discours. C'est signé Laurent Tirard et s'adapter du roman de Fab Caro.
Je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie.
Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Pourtant, ça fait 3 mois que je me prépare au cauchemar de ce mariage. L'église, le vin d'honneur et surtout, la chenille. C'est une machine à broyer les orgueils.
Alors la bande-annonce est très bien faite et résume assez bien le film, faut bien le dire. Benjamin Lavergne joue Adrien. On va en parler, Adrien, quoi, c'est un dîner de famille, forcément un peu ennuyeux. Lui pense qu'à une chose, que Sonia réponde à son dernier SMS, celui dans lequel il l'implorait de mettre fin à la pause dans leur couple. Sauf que Sonia, elle ne lui répond pas. Et que pour couronner le tout, vous l'avez entendu au tout début de la bande-annonce, et bien son beau-frère, Ludo, c'est Kyanko Jandy dans le film, lui demande de préparer un discours pour son mariage, celui qu'il célébrera donc avec sa sœur. C'est un film qui est construit avec... on est dans les pensées de Benjamin Lavergne. Il s'imagine, vous entendiez ce mariage avec la queue leu-leu qui passe en bande son. Est-ce que vous, ça vous a fait rire?
Vraiment génial.
Extraordinaire, plein d'humour, plein de tendresse.
J'ai trouvé vachement sympathique, très drôle.
J'ai ri et ça m'a un peu touchée, ouais. L'histoire d'amour évidemment.
Benjamin Lavergne est excellent.
Les acteurs sont phénoménaux.
Et surtout Benjamin Lavergne et François Morel, et ils ont été vraiment super dans le film, je trouve.
C'était un peu long.
C'était très sympa, c'était très original.
J'ai trouvé que le personnage était un peu trop lisse. Du coup, ça aurait pu partir beaucoup plus loin dans beaucoup de séquences.
Je préfère beaucoup lire le bouquin, c'est comme souvent. Première demi-heure, ça avait bien le rythme, mais après, ça s'étiole un peu.
La réalisation est très, très intéressante.
C'est bien joué, c'est extrêmement bien joué, et j'ai adoré, et j'espère qu'il va faire un tabac.
Voilà, effectivement, c'est tiré d'un roman, je le disais, de Fab Caro, qui a aussi fait une bande dessinée qui avait cartonné, qui s'appelle Zaï 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 Zaï, elle-même adaptée en film, on découvrira ça dans quelques semaines. Fabrice Leclerc, le discours?
Ah bah moi j'aime beaucoup, mais je trouve que la bande-annonce ne raconte pas du tout le film, parce que le discours, qu'est-ce que c'est? C'est un dîner en famille, et c'est un dîner avec papa, maman, la sœur et le futur beau-frère, et c'est le cœur du film. C'est vrai que le mariage ensuite, on le voit. C'est extrêmement bien écrit, l'univers de Fab Caro est très très bien. Je trouve que Laurent Tirard s'en sort très bien dans ce côté un peu...
Oui, parce que c'était pas facile à adapter. Hein.
Parce que oui, et puis c'est face caméra, il faut un acteur qui puisse le faire. On est dans le Ferris Bueller, ça a été fait des dizaines de fois et très très bien. Et puis il y a surtout un acteur qui s'appelle Benjamin Lavergne et qui, je pense, est un des rares en France à pouvoir jouer ça d'une manière absolument précise, concise. Il a toujours le bon regard caméra, on oublie même le jeu de l'acteur et il s'adresse réellement à nous. C'est une vraie performance d'acteur, j'espère qu'il aura le César parce qu'il y a vraiment droit. C'est un grand acteur qui est dans un très bon film, très drôle, très bien pensé. François Morel, la maman dont je ne me souviens plus le nom.
Guylaine Londès,
qui est extraordinaire. Julia Piaton, qui... Voilà, super. Non, c'est vraiment une super bonne comédie, extrêmement bien pensée.
Et Benjamin Lavergne, qui est avec nous il y a quelques minutes. Le discours, Thierry Chaise.
Vous aviez de la chance. je pourrais redire chaque mot qu'a dit Fabrice.
Allez-y, Thierry.
C'est un des plus grands acteurs français tout court. Et ce qui est formidable avec ce film, c'est que c'est extrêmement drôle et que ça parvient à être très émouvant. Quiconque n'a jamais attendu un SMS et d'un seul coup n'écoute aucune conversation parce qu'il est fixé sur son portable, voilà, saura vraiment ce que vit ce film. C'est bien aussi que Laurent Tirard, après des films un peu plus important en termes de budget, c'était Astérix, c'était Le Retour du Roi, revient, c'est presque un nouveau premier film, et on sent que lui-même se réamuse.
Ouais, il s'amuse.
Se réamuse. Alors, je ne sais pas si c'est la comédie de l'année, en tous les cas, c'est un des meilleurs films de l'année pour moi, c'est enthousiasmant.
Ben voilà, vous allez voir Nomadland, c'est un peu plus plombant,
et
puis après,
discours.
Vous allez voir le discours, et vous ressortez
belle
du
semaine.
Cinéma, vous êtes heureux. Vous restez avec nous dans un tout petit instant, on parlera de 200 mètres, de Loki aussi, la nouvelle série Marvel, qui arrive sur Disney+.
Clap. Mathieu Charrier.
Clap, dernière partie, on est toujours en compagnie de Fabrice Leclerc de Paris Match, Thierry Chaise de Première. On vous a très chaudement recommandé d'aller voir Nomadland de Chloé Zhao, Le Discours de Laurent Tirard, mais il y a aussi d'autres films qui sortent cette semaine avec un petit peu moins de budget, mais je voulais qu'on parle de 200 mètres, signé Amine Naïfa.
Stop the fucking car.
Alors 200 mètres, c'est le titre du film et la distance à laquelle Mustapha vit de sa famille. Problème, au milieu de ces 200 mètres, eh bien, il y a le mur israélien et un checkpoint à passer. Pour ne pas perdre son emploi, il n'a pas le choix, il doit faire l'aller-retour quasiment tous les jours, jusqu'au jour où un problème administratif le bloque de son côté du mur. Sauf que Mustapha apprend en même temps que son fils, de l'autre côté, donc, a été blessé. Il doit absolument passer et s'engage donc dans un road movie à bord d'une camionnette clandestine. Au gré des contrôles, des absurdités administratives, des parcours de vie aussi, des gens qu'il va rencontrer. Voilà, c'est un film qui nous fait comprendre un tout petit bout du conflit israélo-palestinien, mais quand même qui met le curseur sur cette question. Qu'en avez-vous pensé ?
Ah, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit comment ça se passe. On voit tous les problèmes qu'il peut y avoir entre la corruption. C'est très bien joué. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ouais.
Très beau film. Ben, on voit un peu comment les gens y vivent déjà. Et ce mur, c'est horrible, quoi. Voilà. Émouvant aussi par moments parce qu'une famille qui est déchirée, c'est une réalité des choses, quoi.
Je suis très, très déçu. L'acteur principal, heureusement, on le reconnaît. Mais les autres personnages, la sœur, la belle-sœur, la belle-mère, on mélange tout. Et c'est très, très bruyant et très... Oh, c'est affreux.
Très bon film, ouais. La façon de raconter, puis on ne s'attendait pas à ça. Il faudrait qu'il y en ait d'autres.
Bon, ben, trois emballés, un affreux.
Très bruyant.
Très bruyant. C'est vrai que c'est bruyant parce que ça roule, ça s'énerve, ça crie. Thierry Chaise, 200 mètres.
Oui, on voit que mercredi, le couvre-feu a été repoussé à 23h parce qu'il y a un défilé de grands films. C'est un film étonnant. Alors, si vous aimez, par exemple, le cinéma de Asghar Farhadi,
ouais, c'est ça.
Vous allez vous y retrouver, mais dans un suspense incroyable.
Ouais.
C'est-à-dire que les choses, vous l'avez dit, mais se mettent assez vite en place. Et ensuite, c'est lui qui n'a pas le bon badge, donc il doit passer de l'autre côté avec des passeurs. Et là, tout est possible, puisque ceux qui sont là peuvent être des traîtres, peut-être des gens du Mossad infiltrés. Et on passe, je ne sais plus, 1h20, 1h30, mais dans cette voiture, à se dire tout, absolument tout est possible. Et voilà, et c'est comme ça qu'on se dit, mais jamais ce qui se passe dans ce pays ne sera réglé, parce que c'est un tel bazar. Alors oui, c'est bruyant, mais c'est tenu, tendu, c'est impressionnant comme film, vraiment.
Fabrice, vous souscrivez ?
Oui, tout à fait. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, j'ai été là-bas, dans les territoires occupés, ça fait un certain nombre d'années, et j'avais ressenti exactement ça, cette absurdité. L'absurdité d'un mur qui sépare deux mondes qui sont faits pour vivre ensemble, parce que dans le quotidien, ils vivent ensemble, mais qui se mettent des barrières. Et je suis tout à fait d'accord avec Thierry, c'est un thriller. C'est un huis clos, c'est un thriller. On est totalement porté par ce passage, voilà, ces fameux 200 mètres, et c'est une chronique de vie, c'est une chronique sociale, c'est un film politique aussi, et c'est un film qui explique beaucoup du quotidien qu'on peut connaître dans cette région-là. Très très beau film. Moi, je suis extrêmement impressionné par la mise en scène, quand même absolument prodigieuse. Là,
avec peu de moyens.
On tient un grand metteur en scène qui pourrait faire plein de choses. Non, vraiment, là encore, je suis désolé, troisième film, allez voir.
Bah voilà, alors on récapitule d'abord Nomadland, voilà. Vous videz un petit peu la tête avec le discours et hop, vous retournez voir 200 mètres. Et puis quand vous rentrez chez vous, si vous le voulez, vous allumez Disney+ pour découvrir Loki, la nouvelle série Marvel.
Nous protégeons la fluidité du temps.
En ramassant le Tesseract, vous avez altéré la réalité.
Je veux que vous nous aidiez à y remédier.
Pourquoi moi ?
Il se trouve que le point de vue de Loki est inimitable.
J'aurais une arme ?
Non.
Alors, je vais essayer d'expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas forcément
bon courage,
tout l'univers
Thierry,
Marvel.
On va prendre un café.
C'est la troisième. Non, mais justement, c'est la troisième série Marvel qui débarque sur Disney+ après WandaVision et Falcon et le Soldat d'Hiver. Alors, Loki, c'est le demi-frère de Thor, dieu de la malice. Cette série, elle se déroule après les événements d'Avengers Endgame, sauf que Loki, je vais la faire courte, mais a réussi à s'échapper en manipulant les pierres du pouvoir.
Bah voyons.
Il voyage à travers les époques, sauf que, problème, en voyageant à travers les époques, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a perturbé le cours du temps, et ça, ça ne plaît pas du tout à la Variance Authority. C'est une sorte de tribunal kafkaïen qui protège finalement cette fluidité du temps, la Time Variance Authority. Donc, il l'arrête, notre Loki. Ils vont le juger, sauf qu'ils lui disent, ben, plutôt que de te juger, si tu veux, tu vas nous aider à capturer quelqu'un qui est planqué dans un autre espace-temps, qui est toi-même, mais dans un autre espace-temps.
Vous avez pris des notes, vous avez 2 heures.
Est-ce que c'est vrai ? C'est ça ?
C'est exactement ça.
Sauf que Loki, il est très attachant, que ses voyages dans le temps, moi, ça m'a beaucoup amusé. Et Thierry, je vais vous donner la parole, parce que vous n'êtes pas un fan de l'univers Marvel. Est-ce que ça vous a plu, Loki ?
Alors, moi, je progresse dans ces séries. Falcon m'avait vraiment ennuyé. WandaVision, j'avais adoré le début, puis je m'étais un peu lassé. Là, ce qui m'intéresse, c'est toujours, dans les séries ou dans les films Marvel, c'est comment ces geeks qui ont été la risée de tout le monde et qui ont pris le pouvoir, jouent avec le pouvoir. Et maintenant, ils dominent le monde. Donc, ils peuvent vraiment... Et je trouve que parfois, ils ne se foulent pas beaucoup. Et là, ils me tendent un peu la main.
Il y a
parce
un vrai
que je
ne
suis pas perdu au début. Au moins, ça me fait rire. Parce que Thor me faisait rire, mais faisait rire plutôt contre le film. Là, je ris vraiment avec
Parce que le Loki en question, il est cocasse.
Et c'est ça, en fait. Et on se retrouve avec un personnage qu'on pourrait voir dans un film anglais, quasiment.
C'est Tom Hiddleston.
Voilà, et c'est super grand bien acteur. Joué. Ça, je trouve que ça fonctionne. Alors, une fois encore, je ne sais pas les vrais amateurs s'ils s'y retrouvent, mais moi qui suis un total profane, je dois avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir à ce premier épisode.
Et d'ailleurs, c'est, je pense, l'occasion pour les total profanes comme vous de s'intéresser aussi un peu à cet univers. Il y a une petite séquence au tout début qui vous explique où on est, ce qui se passe.
Et très bien faite.
Qui est très bien faite, et après on suit avec plaisir. Fabrice, Loki.
Alors, Loki, il est mort, je crois, dans Avengers...
Oui, Endgame, mais il est mort, mais comme ils sont revenus dans le passé...
Et il est revenu.
Oui,
parce qu'il est revenu dans le passé. Ouais. Donc là, il était remort au début, mais finalement pour que la série, il est revivant et il arrive dans un monde où on contrôle le temps et la timeline, mais je crois qu'il contrôle surtout la timeline de Marvel, c'est surtout ça. Après, que dire de cet épisode? C'est donc une série en 6 épisodes. Le premier épisode est quand même pour moi assez ennuyeux. Pourquoi? Parce que ça passe son temps à exposer tout ce qui se passe, qui est qui, ce qui va se passer, et si et là.
Mais le deuxième, vous l'avez regardé ?
Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu que le premier.
Parce que moi, j'ai eu le deuxième.
Je suis désolé.
Vous êtes privilégié.
Très
c'est
important.
Nous, excusez-nous.
Je vous garantis qu'au deuxième, ça, effectivement, le premier est très didactique, permet de poser. Le deuxième, ça vous embarque.
Alors, le premier, moi, je me dis, il y a quelque chose. Il y a un univers à la Blade Runner, Philippe Marlowe, années 70. Très intéressant. Owen Wilson en fait des caisses, mais il le fait tellement bien. Et Tom Hiddleston, c'est plus des caisses qu'il fait, c'est carrément un camion de déménagement. Mais ça passe génial, parce que ce sont deux très grands acteurs. Franchement, je verrai le deuxième épisode et je vous donnerai mon avis. Écoutez, par mail ou
très
par
bien.
SMS.
Allez, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Loki, que vous découvrez sur Disney+. On a parlé de 200 mètres, du discours et de Nomadland. Et rapidement, je voulais aussi vous dire un mot pour nos amis du Festival de Cabourg qui se déroule en ce moment. Ça dure jusqu'à demain soir. Et vous avez un très très beau programme aujourd'hui même. Donc si vous êtes dans le coin ou si vous voulez vous faire une petite virée normande, vous pouvez aller découvrir Goodman qu'on avait vu avec Noémie Merlant, Les Fantasmes aussi, le nouveau film des frères Fuenchino, Ce génie grandé que j'avais adoré, et Fisherman's Friend sur l'histoire de ces marins qui sont mis à faire des chants marins et qu'on cartonne dans le monde entier. Voilà, il y a un beau programme, c'est à Cabourg. N'hésitez pas,
et
messieurs.
Pour tout vous dire, on y sera, Thierry, moi aussi.
Ah bah vous embêtez pas, vous y allez. Bon, Thierry Chaise, première, Fabrice Leclerc, Paris Match, merci avant d'aller à Cabourg d'être venu nous voir dans Clap, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson qui va aussi recueillir vos impressions à la sortie des salles, et c'est toujours très enrichissant de vous entendre. Quant à Clap, c'est en podcast quand vous voulez, et samedi prochain, 14h-15h sur Europe 1. Europe 1.